faire une remarque importante. Donc, on avait vu que le peuple d'Israël est tout à fait singulier dans la mesure où il est l'objet d'une xéra de galoute, un décret qui va être en galoute et même qui va être en chiboud avant même d'exister. Et que deuxièmement, c'est dans ce galoute, dans ce chiboud, qu'il va naître, et le passouk dit même qu'il est devenu un peuple. Pardon? Chiboud, c'est chiaboud, c'est l'esclavage. Ils disent avec l'accent. C'est-à-dire que le galout fait partie des fondations du clan Israël. J'aurais proposé de dire que c'est une forme de gestation du clan Israël, la sortie d'Égypte étant la naissance. Mais l'idée importante dont je veux parler maintenant, c'est que c'est vrai qu'il y a la notion de galout. Mais il y a quelque chose qu'on pourrait appeler un écho de ce galout, qui est que il n'y a pas seulement dans ce galout un esclavage par rapport aux Égyptiens, un esclavage par rapport à quelque chose qui est extérieur au peuple d'Israël. Il y a des ennemis de l'intérieur qui eux aussi veulent réduire le peuple en esclavage. Ces ennemis de l'extérieur, dans les psoukim, dans les versets, on en parle, dans la mesure où dans les klalot de le Kokotai, il a annoncé que, le cas échéant, il y aurait donc un ennemi intérieur et un ennemi extérieur. Et l'ennemi intérieur, ça se dit dans le passouk, Veredou, Bachem, Sonachem, c'est-à-dire Bachem et Mikem, c'est-à-dire en vous, mais venant de vous-même. C'est-à-dire, il y a des ennemis qui sont des Bnei Israël, en fait. On sait que le Galout Mitzrayim, c'est l'archétype des Galouyot. C'est la racine des Arba Galouyot, des quatre exils ultérieurs. Ce galout de Mitzrayim, c'est la réalisation de la promesse, enfin, de ce qui a été annoncé à Abraham Avinu au moment de Brit Ben Abtarim, quand il était tombé en syncope et cette fameuse torpeur qui l'a enveloppé, etc. Et c'est là qu'on lui a annoncé que ses descendants allaient être esclaves dans un pays étranger et qu'on allait les faire souffrir. Voilà. Mikem, oui. Donc cette torpeur-là, elle qui annonce le chiboud, qui annonce l'esclavage égyptien, mais en fait, ça annonce aussi les esclavages ultérieurs, qui sont d'une certaine manière inclus dans celui de Mitzrayim. Mitzrayim, c'est l'esclavage de base qui va inclure, enfin, qui inclut les quatre esclavages, les quatre exils et esclavages qui suivent. Mais si on sait quelle est la racine des quatre esclavages, c'est l'esclavage égyptien, on ne sait pas quelle est la racine de l'esclavage, de la souffrance qui vient des ennemis de l'intérieur. D'où est-ce que ça vient, ça? L'Égypte, c'est la racine des galouillotes quand on est en exil chez les autres peuples. Mais où est la racine de l'esclavage, Bachem ou Mikem, c'est-à-dire résultant des ennemis de l'intérieur? Alors, bien sûr, tout est dans la Torah, mais ça, cette source-là, elle est dévoilée par les Chachmei Emet, comme on dit, par la Kabbale, les Kabbalistes. Dans les Sfarim, il dit que la source de l'ennemi intérieur, de cette capacité de produire de l'esclavage, etc., que ça vient de ce qu'on appelle le Erev Rav. Alors, je dis tout de suite, il ne s'agit pas de dire que la cause, elle est dans les descendants physiques du Erev Rav. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas d'Afka, c'est les enfants des gens qui composaient le Erev Rav. Mais c'est l'existence au sein du clan Israël du Erev Rav qui a entraîné la possibilité que des éléments qui appartiennent au clan Israël deviennent réducteurs en esclavage de leurs frères. C'est-à-dire que les aspects négatifs du Erev Rav ont entraîné les Bnei Israël et en ont fait des ennemis. Et d'où le chidouche assez énorme, qui est que au sein du processus de la sortie d'Égypte est née une sorte d'exil et d'esclavage qui n'appartient pas à la sortie, qui n'était pas dans la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, elle englobe les exils où les Bnei Israël sont en exil chez d'autres peuples. Mais ça n'englobe pas l'esclavage résultant des ennemis de l'intérieur. Alors, on va voir quelle en est la grande conséquence. Il faut juste que je répète un petit peu quelques petites choses sur ce fameux Erev Rav. Le mot Erev Rav veut dire le grand mélange. Erev, ça veut dire mélange. Erev Rav, c'est le grand mélange. Ce n'est pas un mélange dans lequel le clan Israël serait une des composantes. C'est un mélange parce que ce Erev Rav lui-même n'est pas homogène. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. On peut prendre un modèle actuel. Quand les Juifs sont sortis de Russie, quand les Juifs ont eu la possibilité de sortir de Russie, plus exactement. Les Juifs étaient persécutés, Mais en fait, ils étaient les seuls qui, parfois, pouvaient sortir. Les Russes eux-mêmes, qui étaient les Russes qui n'étaient pas juifs, ils pouvaient jamais sortir. Pas de, ils ne peuvent pas sortir. Depuis Staline, depuis les années 30, ils ne pouvaient pas sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de goyim qui ont acheté des passeports juifs. Qui se sont fait passer pour juifs et qui sont sortis avec un passeport juif. Donc, ils sont sortis de l'URSS. Et certains sont allés en Israël, d'autres ont continué en Amérique ou ailleurs. Mais c'est des goyim. Et en Israël, par exemple, ils revendiquent, ils disent, mais nous, on veut nos cimetières à nous, on veut nos boucheries à nous, on veut nos structures à nous. On est des goyim, on est des chrétiens, on n'est pas des. On n'est pas des juifs. Donc vous voyez, la porte s'est ouverte pour les juifs. D'autres se sont engouffrés, enfin, pas engouffrés, d'autres ont profité de la porte ouverte. C'est ce qui s'est passé en Égypte. La porte s'est ouverte pour les Bnei Israël. Pharaon a viré les Bnei Israël. Il les a chassés tout de suite après la plaie. Au milieu de la plaie de la mort des premiers-nés, et des tas de goyim se sont infiltrés en quelque sorte, ils ont profité de la porte ouverte, ils sont sortis aussi. Alors, dans ces gens-là, qui étaient probablement majoritairement égyptiens, mais il y avait toutes sortes d'autres gens, toutes sortes de gens qui se trouvaient, l'Égypte c'était une grande puissance. Et ils avaient toutes sortes de gens qui étaient ou bien des travailleurs ou des gens qu'ils avaient, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, se sont retrouvés en Égypte et qui s'y trouvaient peut-être pas tellement bien et qui étaient très contents de pouvoir en sortir et qui en profitaient. On ne sait rien pratiquement de ce Erevra. Récemment, j'ai entendu quelqu'un qui disait que on pourrait comparer le Erevra à la Légion étrangère en France. Comme s'il y avait des mercenaires qui ont dit, ben, on va vous protéger, quoi. Les Bnei ils vont sortir, ils sont incapables de faire la guerre, alors il y a des gens, peut-être des militaires, des gens qui, eux, savaient se battre, ou en tout cas, n'hésitaient pas à se battre, etc., vont sortir en même temps, soi-disant peut-être en racontant qu'ils allaient protéger ou pas, mais. Celle-là, je ne l'avais jamais entendue, mais bon, maintenant je l'ai entendue. Mais on ne sait pas, on sait pas grand-chose, on ne sait pas qui ils étaient, on ne sait pas non plus combien ils étaient. Ce qu'on dit d'eux, c'est que quand les Bnei Israël ont fait le veau d'or, le veau d'or, quand il a. Vous vous souvenez comment c'est? Aaron a demandé que tout le monde donne de l'or et les femmes n'ont pas voulu, mais les hommes ont arraché l'or des femmes et ont acheté ça dans un chaudron et il est sorti un taureau, ce qu'on appelle le veau d'or. Mais les Bnei Israël, quand ils ont demandé à Aaron de faire quelque chose, ils ne lui ont pas demandé une idole. Ils ont dit, Aïch Moshe, l'homme Moshe, on ne sait pas ce qui est advenu de lui. Donc ils étaient paumés complètement et ils voulaient quelque chose qu'on puisse investir en quelque sorte de la charge de c'est toi qui nous as sortis d'Égypte, continue à nous guider en quelque sorte. Ce que Moshe Rabbeinu nous faisait. Donc il s'agissait de remplacer Moshe Rabbeinu en fait. Mais bon, il est sorti un veau, alors il faut lui donner du kavod, il faut lui donner du poids pour qu'il puisse jouer son rôle. Et on ne savait pas comment faire. Et les gens du Erevrav, qui eux étaient des idolâtres qui avaient des habitudes, il y avait en Égypte une idole qui était un taureau. C'était même une idole très importante parce que souvent le Pharaon et le pharaon, il était représenté comme un taureau. Et Et eux, ils ont dit, ben, nous, on sait comment il faut faire. Et ce qu'ils ont dit, ben, c'était la façon dont on adorait le taureau en Égypte. Et donc, ça a donné ce que Moshe Rabbeinu a vu quand il est descendu, ça a donné orgie, tout ce que vous voulez, qui était le mode de vie autour de l'idole taureau. Mais ce sont eux, on dit que c'est eux qui étaient à l'origine de. Alors au départ, personnellement, je me demandais toujours comment c'était possible. Dans ma tête, je me disais, le Rav, ça doit être quelques dizaines de milliers de personnes au maximum. D'un autre côté, chez les Bnei Israël, il y avait 600 000 hommes de plus de 20 ans, etc. Comment se fait-il que ce soit cette minorité qui donne le ton? Au début, je ne comprenais pas très bien. Après, je me suis raconté une histoire, probablement. Je me suis dit que quand on ne sait pas, on ne sait rien du tout, et quand quelqu'un vient dire « moi, je sais », alors même une minorité, elle peut effectivement, devant le vide de ce que disaient les autres, ça peut être entendu. Alors, je vais raconter quelque chose que certains ont déjà entendu. Il existe un midrash qui rapporte trois opinions de trois Tanaïm, dont Rabbi Akiva, par exemple. Donc, c'est des valeurs sûres, qui eux répondent à la question combien étaient-ils les gens du RERA? Ils répondent à la question. Le problème, c'est qu'ils donnent trois réponses très étonnantes. Il y en a un qui dit ils étaient 1 200 000. Le deuxième dit, c'est Rabbi Akiva, il dit ils étaient 2 400 000. Il y a une troisième chita qui dit ils étaient 3 600 000. Ça veut dire quoi? Indépendamment de ce que ces chiffres-là ont l'air complètement fous, mais ça veut dire, vous avez remarqué, les trois chiffres sont des multiples de 600 000, et que ça veut dire que dans les trois opinions pensent tous les trois que le RRA était deux, quatre ou six fois aussi nombreux que les Bnei Israël. Les Bnei Israël sont 600 000, les autres sont 1 200 000, 2 400 000 ou 3 600 000. C'est impossible à comprendre. Bon, ça veut dire que les gens qui sont sortis avec les Bnei Israël était largement majoritaire. Vous savez, on dit il y avait du Réva qui sortait avec eux, mais c'est les Bnei Israël qui sont sortis avec les Révraves. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont si nombreux? Bon, alors, a priori, je ne sais pas quoi faire de ce Midrash. Moi, je me suis raconté une histoire, je vous la raconte aussi. Mais bon, c'est mon histoire personnelle. C'est pas du tout un pshat. Mais il se trouve, ce qui m'intéresse, j'ai l'impression, est important pour moi, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est 2 400 000. 2 400 000, c'est quatre fois les Bnei Israël. Alors, ça vous dit sûrement quelque chose. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, il y a un cinquième qui est sorti. Quatre cinquièmes ne sont pas sortis. Ne voulaient pas sortir, en tout cas. Et quatre cinquièmes, ça fait 2 400 000. Donc, j'aurais dit que le Erev Rav, pour essayer de penser comme ça, que le Erev Rav, ce sont les Bnei Israël qui ne voulaient pas sortir. Alors on dit normalement qu'ils sont morts pendant la période de Rosh Hashanah, l'avant-dernière Maka, ils sont morts et ont été enterrés, ils ont disparu complètement de la circulation. C'est un peu étonnant que Paro n'ait pas remarqué qu'il manquait 2 400 000 personnes. Maintenant, il voulait pas sortir, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la petite histoire que je me raconte, elle continue comme ça. Ah, Paro, il avait dit à Moshe, à la plaie de Rochef, il lui avait dit, surtout, ne te représente pas devant moi, c'est le jour où tu te présenteras devant moi, tu mourras. C'est des paroles en l'air, parce qu'évidemment que quand Moshe s'est présenté les premières fois, Paro a essayé de le tuer, mais ça n'a pas marché. Pourquoi tout à coup il pense que ça va marcher maintenant à la 10e plaie? Quand t'es complète, enfin après la 9e, quoi. Si maintenant il vient, tu vas le tuer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des paroles en l'air. Et du coup, Moshe, comme vous savez, lui a répondu: Ok, d'accord, t'as bien. Je me représenterai plus devant toi. Mais maintenant, quand il y a eu la plaie de la mort des premiers-nés, il y a eu panique à bord complètement. Et donc, Paro, il a cherché Moshe pour que ça s'arrête. Partez! Et que ça s'arrête. Bon, Moshe s'est caché. Certains disent que c'est pas Moshe qui a parlé avec Paro, parce que comme il avait dit, tu me verras plus, alors il a envoyé un émissaire. Ou bien, peut-être, Moshe Rabbeinu l'a compris, moi, je viendrai plus, mais si toi, tu viens chez moi, pourquoi pas venir. Toi, tu viens me supplier. Donc, il est venu supplier que les Bnei Israël s'en aillent. Et Paro, il voulait que, mais partez tout de suite, partez. Je ne veux plus voir un juif ici parce que tant qu'il y a des juifs en Égypte, ça meurt chez nous. Les premiers-nés meurent. Donc, probablement, si on dit que, quand on dit ils sont morts, les 4/5 sont morts, moi, ça ne me dérange pas tellement de dire qu'ils sont morts spirituellement. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas sortir. Ça veut dire on va devenir égyptien. Oh, là, ils étaient égyptiens. Ça fait 210 ans qu'ils vivaient en Égypte. Ils étaient idolâtres aussi. Alors, ils avaient quelques points, comme on dit, les trois choses que les Israéliens ont conservées. Ils ont gardé leur nom, leurs vêtements et la langue. Bon, ça c'est. Mais eux, peut-être, ils étaient plus assimilés, ils ne voulaient plus sortir. Ils ne voulaient pas sortir. Et donc, si on dit que ils sont seulement morts spirituellement, mais quand Paro a dit, il a chassé tous les Bnei Israël, y compris ceux qui ne voulaient pas sortir. On n'a rien à faire, vous ne restez pas. Je veux plus de juifs ici. Tant qu'il y a des juifs, pour nous, c'est un malheur, parce qu'on va mourir. Et donc, ces gens-là sont sortis avec leurs frères, avec le cinquième qui voulait sortir, il y a les 4/5 qui sont sortis avec. Alors, cette façon de lire qui est, bon, que je n'ai trouvée nulle part ailleurs, donc c'est sûrement pas ça la bonne, mais c'est dommage parce que ça arrangerait pas mal de choses. Ça arrangerait en tout cas deux choses qui sont très ennuyeuses autrement. C'est que, comme vous savez, quand les Bnei Israël ont franchi la mer, chaque tribu a franchi la mer dans son canal. La mer, elle s'est fendue de 12 canaux, et chaque tribu est passée par un canal bien précis, où ils ont passé les Rebraves, si c'était des Égyptiens. Comment ils ont franchi la mer, eux? Il n'y avait pas de canal pour Égyptiens.
Derrière, il y a une tribu.
Il y avait?
Ils se mettent derrière la tribu.
Mais comment ils pouvaient entrer? Ben, c'est les tribus. Si les canaux étaient faits, ben, ils ne s'ouvraient pas pour un ou pour les autres. Par contre, si tu dis que ces gens-là étaient dans les 4/5, ben, les 4/5, c'était les Juifs. Ils appartenaient chacun à une tribu. Donc, ils ont franchi la mer, ben, ils ont traversé la mer dans leur tribu, dans le canal de leur tribu. Donc cette question-là, elle s'arrangerait bien si on disait que les 4/5, que le Révraf, c'était les 4/5. Ce qui s'arrangerait aussi, c'est par la suite, les Bnei Israël dans le désert, ils vont camper par tribu. On le voit par exemple dans la fameuse histoire du fils de la Bat Dibri, là, celle qui avait été violée en Égypte et dont le fils, elle a un fils, et le fils, son père, c'est un Égyptien, donc il appartient à aucune tribu. Mais sa mère était de la tribu de Dan, alors lui, il a toujours habité sur le territoire de Dan, on l'a laissé. Et un jour, il a dit qu'il a revendiqué, il a dit, je veux être de droit dans le territoire de Dan. Il dit, c'est pas possible. Il est allé chez Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu l'a dit aussi, donc il s'est révolté, il a blasphémé, etc. Donc on voit que les gens campaient par tribu. Le Révrav, il était où? Alors certains disent, je crois qu'il y a des Mefarshim qui disent qu'ils étaient à l'écart. Ils campaient ailleurs. Maintenant, si on dit qu'ils étaient dans le 4/5, ben, ils ont campé avec tout le monde. Donc il y a beaucoup de choses qui s'arrangent si on dit ça. Sauf que, comme je dis, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui voulait penser comme moi, cette affaire. Donc je vous raconte ça comme ça. Mais on ne peut rien en faire. Donc ça, c'est le Erev Rav. Et donc ce Erev Rav, a priori, donc, que ce soit des gens qui ne voulaient pas sortir, donc qui ne voulaient pas accepter la Torah, ça explique aussi, si c'est ça, que les Bnei Israël, dans le désert, à tout bout de champ, ils disent, on veut retourner en Égypte, on va retrouver en Égypte. Ça veut dire, tu veux retourner. Ils ont même raconté que on mangeait gratuitement. Ça veut dire gratuitement. On t'a donné à manger, mais ouais, ce qu'on donnait aux esclaves. Ça s'appelle manger. Zacharnu ta daga, il y avait une bouillabaisse permanente, donc imagine. Mais en fait, bon, ça c'est déjà autre chose, c'est que ceux qui disaient qu'ils voulaient retourner, qui disaient qu'ils mangeaient gratuitement, gratuitement ça veut dire sans avoir besoin de faire des mitzvot, c'est que la dernière année, durant laquelle il y a eu les plaies, les makot, les Bnei Israël ne travaillaient plus pour les Égyptiens. Donc, si on veut, ils étaient relativement bien. Ils étaient en Égypte, ils ne travaillaient plus, je pense qu'ils ont mangé normalement, etc. Et comme il n'y avait pas encore de Matan Torah, donc il n'y avait pas encore de mitzvot à faire. Donc, c'est peut-être ça qu'ils disent quand ils disent. Zacharnu et Tadaga, etc., qu'on a mangé gratuitement, parce que sinon ils sont complètement débiles. Ça veut dire, tu veux retourner là où tu étais esclave? Non, ils pensaient qu'on peut retourner en Égypte et on sera comme dans la dernière année. On va pas retourner, on va pas. C'est fini, l'esclavage il est terminé. On sera peut-être des citoyens de seconde zone, peut-être, c'est pas sûr, mais on ne sera pas esclave. On vivra en Espagne, on vivra en Égypte. On n'aura pas besoin de faire des mitzvot. Donc, ce Révrav, il est là à côté des Bnei Israël. Alors, je reprends le Révrav classique, c'est-à-dire un ramassis de voyous, de mercenaires, de goyim, d'idolâtres, bon, ce mélange, ce grand mélange. Ils sont là à côté, et donc, d'être à côté, ça a eu une influence évidemment sur certains des Bnei Israël qui ont trouvé que tiens, ben, leur façon de faire, et donc ils se sont révoltés contre les Bnei Israël et ils ont voulu reprendre une position où on va obliger les Bnei Israël à travailler. Ils ont voulu prendre la position des maîtres quoi, dans le dialogue. Maître et l'esclave, bon, on va être du côté des maîtres, les anciens esclaves, on va les remettre en esclavage. Alors, il y a un grand problème. Le problème, c'est que dans les Nevi'im, c'est plusieurs fois marqué que la Geoula Atida, c'est-à-dire la libération ultime, celle qui correspond à la sortie de l'exil dans lequel nous sommes, celle qui est la libération qui donnera la fin de l'histoire avec Triatamitim, avec le Mashiach, avec Triatamitim, etc. Sur cette libération-là, les Nevi'im disent, ils mettent cette âme comme c'était quand tu es sorti d'Égypte, ce sera la même chose quand tu sortiras du dernier exil, en quelque sorte, quand tu sortiras pour aller à Yerushalayim, quoi. C'est-à-dire que quand on sera vraiment libéré, quand la fin des temps va arriver. Donc ça veut dire que la sortie d'Égypte, c'est un modèle pour la Géoula finale. C'est attesté à plusieurs endroits dans les Nevi'im. Même marqué dans les Nevi'im que Hachem a fait certaines choses au moment de la sortie d'Égypte en vue de ce qui va se faire au moment de la Géoula finale. Donc c'est vraiment très très proche. C'est un vrai modèle. Mais comment ça peut être un modèle? Si, dans la sortie d'Égypte, il y a une nouvelle sorte d'esclavage, une nouvelle sorte d'exil en quelque sorte, alors ça ne peut pas être le modèle de la libération finale. La libération finale, c'est une Géoula sans Chiboud ultérieur. Sans qu'il y ait après de nouveau un galout. Donc on ne comprend rien du tout. Le modèle n'est pas du tout le bon modèle pour la libération finale. Parce que le modèle, c'est une libération qui contient qu'après la libération, il y aura de nouveau des exils. Et tu veux prendre ça comme modèle pour la libération finale? Ça marche pas. Pas possible. Quand on pose cette question-là, alors, une partie de la réponse, elle est dans Yann Gomara, dans peut-être. Il dit la chose suivante. Elle dit que la sortie d'Égypte, en fait, c'est-à-dire le processus de sortie d'Égypte, la Hatzala, a eu lieu en deux temps. Il y a un premier temps qui s'appelle la Geoula, et qui a eu lieu à partir de minuit, c'est-à-dire dans la nuit, puisqu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu est intervenu, il a tué les premiers-nés, et immédiatement il y a la clameur dans toute l'Égypte, et Paro chasse les Bnei Israël, en tout cas il veut les chasser. Donc les Bnei Israël sont libérés. Parce que quand Paro a dit, quand il a dit à Moshe ou à l'un des types que Moshe avait envoyé, il lui a dit, partez maintenant tous, partez. Moshe Rabbeinu, il a dit deux choses. Il a dit d'abord, on ne partira pas tant que tu n'auras pas déclaré, tu n'auras pas fait un document selon lequel les Bnei Israël ne sont plus tes esclaves. Dans la Agada Pessah, on dit, si Hachem ne nous avait pas sortis d'Égypte, nous, nos enfants, nos petits-enfants, on serait encore aujourd'hui Avadim le Pharaon. On serait encore Avadim à Pharaon. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne peut pas y avoir eu de révolution, etc. Ça veut dire que si les Bnei Israël sont des esclaves, enfin, ils avaient un statut d'esclave de Pharaon. Et si maintenant ils s'enfuient, ils sont toujours esclaves de Pharaon, formellement. Pharaon n'a plus la haute main sur eux, mais leur statut juridique, c'est quoi? C'est esclave de Pharaon. Et donc on serait, ça peut se transmettre. Et donc si aujourd'hui il y avait un descendant de Pharaon, ben nous serions ses esclaves. Il ne pourrait rien faire, mais formellement, on serait ses esclaves. C'est ça que dit la Agada Pessah. Et donc, mon cher Rabbeinu a dit à Paro, on ne sort pas tant que tu n'as pas donné un document de libération des esclaves. Tu dis, voilà, les Bnei Israël ne sont plus mes esclaves. Donc, c'est terminé. Ben, c'est une chose. Mon cher Rabbeinu, il a dit aussi encore une autre chose. Il a dit à Paro, on ne va pas partir au milieu de la nuit comme des voleurs. On partira demain matin. C'est-à-dire que la Géoula, elle a eu lieu de nuit, mais la Yetzia, la sortie d'Égypte, elle a eu lieu le matin. Donc, il y a deux temps dans la sortie d'Égypte. La libération formelle des Bnei Israël et la sortie matérielle, concrète, du pays d'Égypte. L'un a eu lieu de nuit, à partir de minuit, et l'autre a eu lieu le matin. Alors, juste une petite remarque sur le fait que Moshe a dit, on ne va pas partir comme des voleurs en pleine nuit. C'est pas terrible comme argument, dans la mesure où tout le monde sait que durant la nuit de Pessah, on y voyait comme en plein jour. Voilà, vous vous souvenez? Quand Avraham Avinu a fait la guerre au roi pour libérer son beau-frère, Lot, pour son beau-frère, oui, Lot, qui était prisonnier parce qu'il faisait partie des gens de Sodome qui
Son
avaient perdu
neveu.
la guerre, qui avait perdu la guerre quand il y a eu la guerre des quatre contre les quatre rois contre cinq rois. Et lui, Lot, il était prisonnier. Et on a dit que c'était tout, enfin, les gens de Sodome, bien sûr, ils ont dit, mais c'est lui qui nous a, c'est Lot qui nous a entraînés, etc. Parce qu'ils se sont dit, Abraham a mis nous. Enfin, c'était pas leur père, mais Abraham, il va pas rester les bras ballants s'il apprend que son beau-frère est prisonnier. Il va venir faire la guerre. Et on pourra enfin le tuer. Et Abraham est effectivement venu faire la guerre, mais vous vous souvenez, il a fait la guerre en jetant de la paille et de la poussière. Il a gagné la guerre contre eux. Il a libéré Lot. Mais cette guerre, il l'a faite de nuit, Abraham. Parce que, en son temps, on ne faisait pas la guerre la nuit. Visiblement, probablement, ils avaient des problèmes de générateur, je ne sais pas exactement les problèmes. Donc, ils ne pouvaient pas faire la guerre la nuit. Mais Abraham Avinu, il a dit, si je ne fais pas la guerre la nuit, alors Lot, il va souffrir une nuit de plus. Et donc, il s'est battu de nuit. Alors, Hachem lui a dit, toi, tu as changé la nuit en jour pour sauver Lot. Moi, je ferai la même chose pour tes descendants. Je changerai la nuit en jour. Quand est-ce qu'Hachem a changé la nuit en jour? Le soir de la sortie d'Égypte. Et pourquoi? Parce que le jour, enfin la nuit où Abraham a fait la guerre pour sortir Lot de son état de prisonnier, c'était la nuit du 14 au 15 Nissan. Et donc, Abraham Avinu, il a changé la première moitié de la nuit en jour. Au moins de la moitié de la, à la moitié de la nuit, il avait gagné la guerre. Et du coup, Akadosh Baruch Hu, il a changé la deuxième moitié de la nuit, de la même nuit, celle du 14 au 15 Nissan, en jour. Donc en vérité, on y voyait en plein jour. Peut-être, M. Rabbeinu, il a voulu dire, officiellement c'est la nuit, on ne va pas partir comme des voleurs pendant la nuit. On partira seulement deux jours. Alors ça, c'est fondamental, parce que quand est-ce que le Erev Rav s'est joint au Bnei Israël? Il ne s'est pas joint au moment de la Géoula. Il n'avait rien à voir avec la Géoula. C'est les Égyptiens. Mais ils se sont joints au Bnei Israël au moment de la Yetzia, au moment où les Bnei Israël ont quitté le territoire égyptien. À ce moment-là, le Erev Rav avait passé avec eux. Donc, en fait, justement, et probablement, c'est ça la raison pour laquelle ça s'est fait comme ça en deux temps, parce que normalement, ça aurait dû se faire en même temps. C'est-à-dire que la Géoula, elle a eu lieu pour le clan Israël dans sa impureté, ça veut dire sans qu'il y ait le Erev Rav. Et c'est ça le modèle de la Géoula finale. Et donc, s'il n'y a pas le Erev Rav, il n'y a pas de Géoula, il n'y a pas de Chiboud de l'extérieur. Et donc, il n'y en a plus long, de l'intérieur, pardon, excusez-moi. De l'extérieur, on n'a pas, puisqu'on vient d'être libéré par Paro. Il n'y a pas non plus de l'intérieur, puisque, en fait, c'est le Erev Rav qui est la source de l'exil, de l'esclavage intérieur, plutôt. Or, le Erev Rav, il est là seulement à la sortie, pas. Il n'est pas là à minuit et quart, il est là à 8 heures du matin. Et donc, le modèle, c'est effectivement la Géoula, parce qu'il n'y a pas de Yetzia, on va pas. Ce n'est pas une sortie, exactement. Aujourd'hui, on n'est pas dans un pays particulier, quoi. C'est vrai qu'il y aura Kibbutz Galouyot, etc., ou que peut-être il a déjà eu lieu. Peut-être que ce qui se passe en Israël, où il y a des gens qui viennent de tous les endroits, ça s'appelle déjà Kibbutz Galouyot, je ne sais rien.
C'est Hachem qui fait le.
Ah, mais
Qui...
je crois que c'est pas Hachem qui fait
Oui, mais.
que les gens viennent. Ah, ouais. Ben, c'est qui? C'est l'ONU qui.
Les politiciens.
Hachem, on apprend de la. Je vous ai dit en Shiur de Chumash que. On apprend de la plaie des sauterelles. Akadosh Baruch Hu, il intervient aussi à l'intérieur des lois de la nature. Les choses se présentent comme si c'est voilà, c'est une loi de la nature. Les sauterelles, c'est pas, il n'y a pas eu un miracle pour les sauterelles. Il y a eu un grand vent toute la nuit, toute la journée, toute la nuit. Le lendemain matin, c'était couvert de sauterelles. Et c'est comme ça que. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps, les fameux criquets qu'il y avait en Égypte il n'y a pas si longtemps. Sauterelles, quoi. Et c'est comme ça. Il y a un vent qui souffle très longuement, un vent très violent. La pousse est couverte de sauterelles. Donc ça s'est présenté comme quelque chose de tout à fait naturel. Donc Akadosh Baruch Hu, il intervient aussi de façon naturelle, à travers les lois naturelles. Donc, le problème qu'on avait, c'est comment est-ce que la sortie d'Égypte peut être un modèle pour la Géoula finale? Très bien. La Géoula, la sortie d'Égypte est un modèle pour la Géoula finale. La Yétsia, non, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Donc là, ce que je voulais dire, pour ajouter à cette singularité, en fait, de la sortie d'Égypte, et donc de l'exil égyptien avec ce que c'est que ce fameux Erev Rav, c'est compliqué effectivement de travailler avec ce grave, mais il y a dans l'Even Shlemah, qui est un petit bouquin, un livre qui est écrit par un fils ou un frère du Gaon de Vilna, il ramène les enseignements du Gaon. Le Gaon, il explique que le Erev Rav, il s'est intégré au Klal Israël. Il y a dans le Klal Israël du Erev Rav. C'est probablement la façon de dire ce que je vous ai raconté, là, qu'il y a des gens qui ont été influencés par le Erev Rav. Et le Gaon dit qu'il y a cinq sortes de Erev Rav dans le Klal Israël. Alors, la première sorte de Erev Rav, c'est ce qu'on appelle les Baalei Machloket et la Shonara. C'est-à-dire ceux qui recherchent toujours à faire des Machloket, des Machloket, si vous voulez, et qui disent du Lachonara. La Machloket, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. La Machloket Bet Shammai, Bet Hillel, la Machloket, la Gemara, elle est pleine de Machloket. Mais on parle ici d'une Machloket qui n'est pas du tout, comme on parle de Machloket, Lichem Shamaim, selon Lichem Shamaim, etc., dans quelques avot. Ce n'est pas une Machloket positive, en fait. C'est une façon, quand on parle de Machloket, donc Machloket, la racine, c'est Chelek, ça veut dire on partitionne le clan Israël. Tu partitionnes le clan Israël, tu casses l'unité du clan Israël. Et le Lashon Hara, c'est aussi une façon de casser l'unité du clan Israël. Puisque ça veut dire qu'on casse les relations entre les gens grâce au Lashon Hara. Alors le Gaon dit que ce groupe-là, c'est les pires. Et que certains disent que ce groupe-là en particulier, on les appelle Amalekim. C'est de l'Amalek qui est à l'intérieur du clan Israël. Deuxième groupe, ce sont les Baalei Taava. C'est-à-dire, c'est les gens qui n'ont pas de limites. Leur désir, c'est quelque chose qui font primer dans tout. Vivent selon leurs désirs. Le troisième groupe, c'est ce qu'on appelle les tzvouim, c'est-à-dire c'est les gens qui se font passer pour des gens bien et qui ne sont pas du tout. Le quatrième, c'est les gens qui recherchent à tout prix le kavod. Et le cinquième, les gens qui recherchent à tout prix l'argent. Donc, on voit cette description, elle est sûr, c'est assez sévère, si on peut parler comme ça. Et c'est le Erev Rav. Ça veut dire, ce sont des éléments étrangers dans le clan Israël. Ils ne sont pas étrangers parce qu'ils sont nés de personnes étrangères. Ils sont étrangers par leur conduite. Par le mal qu'ils font à l'intérieur du clan Israël. Ça qui les rend, leur égoïsme, leur narcissisme, etc. Erev Rav, c'est une partie du clan d'Israël qu'il faudrait éliminer de la même manière qu'il a fallu, dans la trajectoire du clan d'Israël, il a fallu éliminer Ishmaël de chez Abraham, il a fallu éliminer Ésaü de chez Yitzhak, et on dit qu'il faut éliminer le Révrav de Yaakov. Le clan d'Israël, c'est les descendants d'Israël, c'est-à-dire de Yaakov, et malheureusement, il y a une pénétration de conduite du Révrav, une pénétration du Révrav dans le clan d'Israël, cette partie-là de gens, ils doivent être éliminés parce que ils ne permettent pas au clan d'Israël, au peuple juif, de se développer. Bien. Donc, revenir à ce dont on parlait la dernière fois. Mitzrayim, c'est un nom qui fait référence aux Metsarim. Metsarim, c'est les trois. Donc, c'est à cause, on l'a dit, parce que l'Égypte, c'est en fait la vallée du Nil. Le reste, c'est secondaire. Mais du coup, du fait que c'est quelque chose d'aussi étroit, en fait, alors, quelque part, ça, c'est le lieu de ce qu'on appelle, de ce que certains ont appelé le galout du dibour, l'exil de la parole. Dans la gorge, si c'est trop étroit, on ne peut pas parler. C'est ça aussi l'idée. Alors, quand mon cher Abbé nous dit je ne peux pas parler, donc il a quelque chose qui l'empêche de parler. Qu'est-ce qui va le guérir? Ben, c'est la Torah. Les mots de la Torah, quand ils vont passer par l'organe de Moshe, vont guérir Moshe. Donc il va être capable de parler parce que les mots de la Torah vont le guérir. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter la Torah? La Torah, elle va le guérir, mais il faut la mériter, la Torah. Comment est-ce qu'on arrive à mériter la Torah? Donc, le problème de savoir est-ce qu'on va mériter la Torah, c'est quand on n'a pas la Torah. Vous vous souvenez ce qu'on avait dit? Que les Bnei Israël avaient des fameux rouleaux. Ces rouleaux-là, Shabbat, les lisaient, et ça leur permettait de rêver. Ça permettait de rêver parce que ces rouleaux parlaient d'une délivrance. Ils parlaient de une sortie de l'état d'esclave. Mais c'était quelque chose de. C'était de l'ordre du rêve. Parce que. Quand on est esclave depuis 210 ans, on ne peut même pas penser la liberté. Cette liberté-là, elle est impensable. Ce qui fait que bon, ce n'est pas directement notre sujet, mais quand mon cher Abbé nous va parler aux Bnei Israël et qu'il va leur proposer cette liberté, ça ne veut rien dire pour eux. Bon, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois que sortir d'Égypte, pour eux, ça voulait strictement rien dire. Personne n'est jamais sorti d'Égypte. Pas sortir, où tu vas aller? Dans le désert? On est dans le désert. Donc on n'est pas sorti. Donc c'était des mots qui voulaient rien dire. Et quelque part, c'est ce que le navire m'a dit, Zahartilach. Hachem dit, je me souviens, il dit ça au crédit du clan Israël, je me souviens de toi, Chesed Nehoraïr, de la générosité dont tu as fait preuve dans ta jeunesse, Lechtech Acharei Bamidbar, tu m'as suivi dans le désert. On a suivi Hachem dans le désert. On ne pouvait pas penser, on ne pouvait rien penser du tout. Vous voulez le... Cette idée de sortir d'Égypte, c'était une idée complètement farfelue, quoi. C'est pas tellement étonnant. Le 4-5e ne voulait pas sortir. Parce que finalement, pourquoi ils sortent? Ils font confiance à Hachem, une confiance telle que tu t'abandonnes un peu comme un nourrisson qui s'abandonne dans les bras de sa mère ou de sa nourrice, en confiance. Mais c'est tout. C'est rien du tout. Tu sais pas où tu vas. Tu sais pas ce que tu vas faire, tu sais pas comment tu vas manger demain, tu sais rien. Alors, c'est comment le mérite de la Torah, c'est se mettre dans une position où, d'une certaine manière, être capable, au départ, être capable de rêver, oser rêver. Vous voyez, celui qui a osé rêver pour la première fois, volontairement, quelque part où on parle de cet oser rêver, c'est Yaakov Avinu dans la vision de l'échelle. Il s'est couché pour dormir, mais pour qu'il puisse rêver. Jusque-là, il ne s'était pas couché pour dormir. Mais là, il s'est installé et il va dormir. Et il va rêver. Avraham Avinu aussi va rêver, mais c'est une torpeur qui est tombée sur lui, tandis qu'Yaakov, il s'est vraiment, il s'est couché. Mais le soleil s'est couché pour lui, donc il a compris qu'il fallait qu'il se couche, il s'est couché. Oser rêver. Et donc, il s'entraîne en quelque sorte avec ses rouleaux. Il s'entraîne à interpréter ce qui est écrit dans les rouleaux. Mais l'interpréter avec beaucoup d'imagination, au sens positif de l'imagination. Et c'est cette capacité-là d'oser penser quelque chose d'impensable, d'oser rêver, d'interpréter, c'est ça qui les rend capables de recevoir la Torah. Parce que dans la Torah, il va falloir, la Torah orale, c'est ça, il va falloir oser penser. Qu'est-ce que c'est la Torah en particulier? Qu'est-ce qu'elle a de... C'est que il y a une espèce d'audace, d'intrépidité à penser. À penser à des choses impensables. C'est aussi penser à un Dieu invisible. On peut pratiquement rien donner, effectivement, on peut admettre, on peut faire des korbanot, on peut donner des choses, comme si il pouvait en avoir besoin, tout en sachant pertinemment qu'il n'en a pas besoin. Et donc, ces rouleaux, si vous voulez, il va Pour la Torah, il va falloir utiliser 70 langages. Moshe Rabbeinu, il va écrire la Torah en 70 langues. Il va falloir utiliser des interprétations multiples, en fait, des constructions multiples. La Megdavar, c'est le Nesiv de Volozhin, c'était le Rosh Shiva de la Yeshiva de Volozhin. Il a écrit un commentaire du Chumash qui s'appelle Hamek Davar. Et il dit que dans la Haggadah de Pessah, cette Haggadah qu'on lit le soir du Seder, il y a une phrase qui dit: celui, tout celui, Kolam arbe, on va dire ça. Plus on raconte la sortie d'Égypte, plus on est digne d'éloge. C'est ce que dit la Agada. Alors, le mec d'avant dit: il y a une espèce d'élite dans le peuple. Elle est composée de ceux qui sont sensibles au miracle que la sortie d'Égypte représente. Et donc, l'élite, vraiment, c'est ceux qui ont le plus à dire, à raconter sur cette sortie d'Égypte. Le développement de ce récit, sortie d'Égypte, c'est l'aboutissement de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, elle a ceci de particulier, le récit de la sortie d'Égypte, elle a ceci de particulier que ce n'est pas un récit ordinaire. Pourquoi? Parce que normalement, un récit, c'est quoi? C'est que tu vas raconter quelque chose qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé, c'était la chose fondamentale. Alors, tu vas raconter ta guerre, tu vas raconter ton ascension de l'Everest, tu vas raconter. Bon, alors, le grand truc, c'est quoi? C'est l'ascension de l'Everest, c'est la guerre. Et après, il y a un récit qui ramène, qui te permet éventuellement de revivre. Mais dans la sortie d'Égypte, ce n'est pas du tout comme ça. Alors, Jbourou, il a dit à Moshe Rabbeinu: j'ai encore des signes à manifester, justement, dans Parshat Bo, ce qu'on a lu. Parce que ce que je fais là, tout ce que je fais, alors c'est pour que l'Égypte, elle sache que je suis Hachem. Vous aussi, vous allez savoir. Mais je fais cela, ce que je le fais pour que tu le racontes. Ce n'est pas du tout qu'on raconte quelque chose qui a été fait pour soi-même. Ce qui est fait, c'est fait pour être raconté. Et ce qui est premier, c'est le récit. Nous sommes un peuple du récit de la sortie d'Égypte. À la limite, si vous voulez, on aurait pu imaginer qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que le clan Israël il soit victime d'une hallucination collective. Il n'est jamais sorti d'Égypte. Mais il y a une hallucination collective et on peut faire le récit. Comme c'est le récit qui est fondamental, on s'en fiche de. Alors, pourquoi ça a eu lieu? Ça a eu lieu pour que ce soit vrai. C'est un problème de Hémet. Mais c'est seulement pour pas avoir le problème de ce n'était pas vrai. Ce n'est pas passé comme ça. Mais l'important, c'est le récit. À la limite, on pourrait dire, on s'en fiche si c'est passé comme ça ou pas. Puisque l'important, c'est le récit. Évidemment, on ne veut pas qu'on fasse un récit de quelque chose qui est visiblement faux. Mais c'est seulement, c'est presque secondaire, le fait. Pas si je me fais comprendre. L'important, c'est le récit. Et nous, on vit de ce récit. On ne dit pas que celui qui est Meshoubar, c'est celui qui est Ma'amine, que ça a eu lieu, etc. Non, celui qui raconte. Plus tu racontes, et on peut se demander qu'est-ce qu'il a raconté. Dans la Haggadah, c'est raconté que les Chachamim, Rabbi Akiva, Rabbi Yeshua, Rabbi Eliezer, les Nazariens, etc., ils étaient, enfin, ils étaient chez Rabbi Akiva. Et pendant toute la nuit, ils ont raconté la sortie d'Égypte. Ils ne sont pas raconté la sortie d'Égypte pour savoir, tu sais, il y a eu une première plaie comme ci, une deuxième plaie comme ça. Mais ils n'ont pas. Bon, ils ont tenu toute la nuit à raconter la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu raconter? Que tous les midrashim que vous racontez le soir du Seder, ou que je raconte le soir du Seder, vous les connaissez aussi. Donc, on est en train de nous dire qu'ils ont réussi d'une manière que nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas. Certains disent, ils ont pensé comment à la lumière de la sortie d'Égypte, comment est-ce qu'on peut résister aux Romains, etc. Que certains disent que c'est pour ça qu'ils étaient chez Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva, c'est le leader de la révolte contre les Romains, etc. C'est peut-être vrai, j'en sais rien. Mais c'est pas. Ça ne dit pas quelque chose de l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'ils ont raconté la sortie d'Égypte. Et on est yotzé avec la sortie d'Égypte, tel que tu lis ce qui est écrit dans la Haggadah, puis voilà, tu as fait la mitzvah s'il faut Yetziat. Mais Arezé Meshoubar, c'est seulement celui qui en parle le plus longtemps, quoi. La marbé. Il faudrait, en réalité, on devrait ne pas arrêter de raconter, sauf que la mitzvah, elle s'arrête le matin. C'est ça qu'on dit. Quand les élèves sont venus, ils ont dit, Rabotai, tel zman de Kriyat Shema, vous pouvez vous arrêter. J'ai autre chose à faire. Mais c'est ça. Ce récit, ça implique une capacité d'imagination, une capacité d'interprétation, ça devait être extraordinaire, bien sûr. Ce qu'ils ont, eux, été capables, c'est tellement grand, quoi. C'est un scandale qu'on sache rien de tout ce qu'ils ont dit. Les élèves non plus, ce n'était pas admis. C'est intéressant. Ça, c'est une question. Pourquoi les élèves n'étaient pas admis? Est-ce que le soir du Seder, c'est pas justement de même que tu dois raconter à ton fils, à ton petit-fils, mais tu dois raconter à tes élèves, non? Jamais vu de bonne réponse. Bon, sauf les réponses qui disent que c'est des secrets de la guerre ou de la révolte, etc., qu'on ne va pas enseigner ça, ne raconter ça à tout le monde. Mais autrement, si c'est maman dans le Sipouri et Tziat Mitzrayim, ouais, ils l'ont pas raconté à leurs élèves. Si d'ici ça, vous trouvez une solution, vous pourrez raconter ça. C'est quand même une question. Et donc, c'est ça qui est très étonnant. Et tout ça, si on veut, ce récit de la sortie d'Égypte, il est maintenant, c'est devenu une mitzvah. Mais il a fallu, pour pouvoir parler, il a fallu se préparer à parler. Il fallait mériter la Torah. Mériter la Torah, c'est donc. On n'a pas la Torah, donc c'est pas faire des mitzvot ou des maasim tovim. Tout ça, c'est dans la Torah. Mériter la Torah, ça veut dire être capable de recevoir la Torah et de faire jouer à la Torah ce rôle qu'elle doit jouer.
Rabbi,
Oui.
m'entendez?
Très bien, oui.
Ouais. Je voulais revenir un instant sur l'importance du récit comme, je dirais, presque plus important pour reprendre vos propos, le fait même, je dirais, historique, si on peut dire comme ça, de la sortie d'Égypte. Parce que même si je le comprends,
Non.
ici, on a quand même. Comment on peut se. Comment on peut se défendre ou en tout cas se positionner sur la problématique de ce qu'on appelle le mythe fondateur? Il y a beaucoup même de mes amis, voilà, ils connaissent l'histoire, ils s'intéressent à la Torah, mais il y a une, comme on dit aujourd'hui, hein, une petite musique qui dit oui, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, la sortie d'Égypte, c'est bien, mais voilà, ce sont des mythes. Ce n'est pas une position péjorative ou critique.
Il n'y avait que 5 groupes.
Il y a quoi? Ah, rien compris. Je sais pas qui a parlé. Comment on peut se situer, je dirais, par rapport à ce type de discussion? Mythe fondateur.
Si vous voulez, c'est un peu ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que, en vérité, bon, ça s'est passé comme ça. OK, ça c'est notre émouna. Mais d'un certain côté, ça n'a pas vraiment d'importance. Puisque l'important, c'est le récit qu'on en fait. Et que c'est à partir de ce récit, qui est sans arrêt répété, quoi, la mention de Zecher li Yetziat Mitzrayim, c'est, je crois, 49 fois dans la Torah. Donc, ce qui est important, c'est de, même si vous l'appelez mythe fondateur, c'est une façon, bon, qu'est-ce que ça veut bien leur faire, que ce soit un mythe fondateur ou pas? Nous, on pense que ce n'est pas un mythe fondateur. Bien, si vous voulez, c'est presque, si je ne me trompe pas, Stan va me corriger. Mythe, ça ne veut pas dire que c'est vrai? Stan?
Je sais pas.
Stan, il ne sait pas? C'est un mythos.
Mutos, ça veut dire un récit, point final. Voilà.
Bon, alors, ouais, c'est un récit fondateur. Oui,
Récit.
c'est un récit
Voilà.
fondateur.
Bon. Mais on est hors du sujet, là.
Mais
C'est dommage.
savoir, est-ce que ce récit correspond à quelque chose qui s'est vraiment passé? Nous, on pense que c'est comme ça. Maintenant, les gens qui préfèrent dire que ça ne s'est pas passé comme ça, il reste à savoir pourquoi c'est important pour eux. Les conséquences de ce récit, elles sont là. Ce récit, les fondateurs, ça veut dire quoi? Que ce récit, il nous oblige. Parce que nous sommes sortis de Mitzraïm et parce que il y a eu un esclavage, par exemple, il y a des mitzvot dans la Torah où on nous dit, tu dois te comporter de telle ou telle manière avec les esclaves, parce que toi, tu sais ce que c'est que d'avoir été esclave. Donc, on voit très bien que ce récit qui nous dit qu'on a été esclave, etc., bon, il est fondamental parce que quelque part, il sert à exiger de nous une certaine conduite. Alors, qu'est-ce qu'ils en savent si ça a existé ou pas existé? D'abord, ils n'en savent rien. Et deuxièmement, bon, c'est vrai qu'on peut pas, qu'est-ce que c'est un objet d'émouna, donc on peut pas faire une démonstration. Ce qu'on voit, c'est que certaines choses dont ils ont dit pendant longtemps qu'elles n'ont pas existé, on trouve des fois des traces qui indiquent éventuellement les traces. C'est pas qu'on donne tellement d'importance à la trace. La Emouna, elle ne dépend pas des traces. Mais ces gens-là qui ont besoin de ça, ils peuvent se rendre compte que ceux qui disaient sur certaines choses qu'elles n'ont pas existé, ben, ils se sont trompés sur pas mal de choses. On s'est aperçu au fur et à mesure du temps, à retrouver une sorte de témoignages qui ont montré que oui, ça existait. Pendant longtemps, il y a des gens qui ont raconté que le royaume de David n'a jamais existé. Bon, on a fini par trouver des pièces de monnaie qui étaient frappées par David. Bon, tout, pour moi, ça change rien du tout, mais bon, ça peut au moins leur demander d'être un peu modestes, en fait, dans leur façon de dire les choses, que les choses sont passées comme ci ou comme ça. Mais de toute manière, quelque chose s'est bien passé et que la Torah, par exemple, sais pas qu'est-ce que on peut dire, la Torah, elle sait des choses qui font que elle peut très bien dire que les choses se sont passées comme ça parce que c'était ça le fond du problème, même si extérieurement les choses ne sont pas données obligatoirement comme ça. Donc, extérieurement, effectivement, on n'a peut-être pas de preuves ou on a l'impression que ce n'est pas comme ça, mais la Torah, elle parle des choses en profondeur. Elle parle des. C'est pas. Il y a des gens qui disent que, je ne sais pas moi, Canaan, c'était une province égyptienne. OK. C'est très possible. La Torah, elle sait très bien que Canaan et Mitzrayim, tous les deux des descendants de Ham. Ils ne sont pas loin l'un de l'autre, alors que ce soit une province ou pas, etc. Ça ne change peut-être pas grand-chose. Mais c'est comme ça. Ça veut dire, on peut très bien dire que ça, c'est comme l'Égypte, dans la mesure où ça, c'est tous les deux des descendants de Ham. Donc, du point de vue de l'importance du rôle que ça joue, bon, alors la Torah, elle nous fait remarquer que même si effectivement ils sont tous les deux des descendants de Ham, mais on voit bien que, comme elle le dit, que Maaseh Eretz Mitzrayim d'un côté, que Maaseh Eretz Kenan de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les mêmes comportements, même si Canaan avait été à un moment une province égyptienne, etc. Bon, elle a été peut-être conquise par les Égyptiens, j'en sais rien, mais ça ne nous dérange pas tellement. Mais ce sont des choses dont la Torah, si vous voulez, la Torah, elle peut très bien décider de donner le vrai nom des choses, parce qu'elle sait ce que sont vraiment les choses, même si après on a donné d'autres noms, peu importe. Mais l'essentiel est dit dans la Torah. Mais encore une fois, même le Shittatam, même d'après eux, d'après ce qu'ils disent, eux, je ne vois pas très bien quel est le. Dans la mesure où ce qui est important, justement, ce que la Torah elle-même nous dit, c'est que l'important, ce n'est pas les signes qu'Hachem a mis pour nous. L'important, c'est qu'on raconte la chose. Donc le récit est important. Pourquoi il est important? Parce que à partir de ce récit, c'est un fondement, c'est un récit de la naissance, bien sûr. Ouais. La sortie d'Égypte, c'est la naissance du peuple d'Israël. Donc, c'est un récit de la naissance. C'est important de savoir comment le peuple d'Israël est né. Alors, on n'est pas en train de dire que le peuple d'Israël, il est né de la crise de Jupiter ou de je ne sais pas quoi, de ce genre-là, pas du tout. On est des anciens esclaves. On était en Égypte considérés comme des moins que rien. OK, possible. On n'est pas en train de se tresser les couronnes. Oui, ils nous considéraient comme moins que rien. Il n'y a pas si longtemps, dans un pays très très développé, plein de cultures, on nous a aussi considérés comme des moins que rien. Et alors? Vous laissez, il faut se demander qu'est-ce que ça change par rapport aux obligations que ça nous crée, oui. C'est important. Savoir qu'est-ce qui est important. Voilà. Ce récit, il est important parce qu'il nous crée des obligations.
Non, mais d'accord, mais il y a le problème, il y a le problème moi, je pense qu'ici, pourquoi on parle, pour certains en tout cas, pourquoi ils parlent de mythe fondateur, c'est qu'ici, il y a le problème du Emet, c'est-à-dire, il y a aussi dans la Torah une vérité, historique du récit. Voilà, donc, j'ai l'impression que c'est un peu dangereux. Ici, on est sur la corde raide parce que si on ne fait que ressortir le message et donc le récit, qu'en est-il de la réalité historique aussi des faits qui sont explicités dans la Torah? Quoique c'est là l'enjeu, en fait. L'enjeu du débat, mais bon.
Du point de vue de nos obligations, si vous voulez, ça ne change pas grand-chose. Mais
Non.
c'est tout notre, c'est no, c'est un problème d'Emouna, parce qu'ils n'ont pas de preuve de quoi que ce soit.
Non.
Oui.
Mais Rav,
Oui.
peut-être que ça relie un peu ce que dit Ilan par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la constitution du Erev Rav, qui me paraît, moi, hyper
Pourquoi est-ce
importante
qu'on
dans.
mérite tout ça?
Pardon? Pourquoi on? Pourquoi on mérite quoi? Pardon, je ne sais pas, j'ai pas. Pardon?
Qu'est-ce que j'ai
Khan a
pas bien
dit
entendu
pourquoi on mérite tout
l'intervention.
ça. Bon, vas-y,
Okay.
continue, semblait.
Alors, terminé, Bernard, qu'est-ce que vous voulez dire?
D'accord. Non, mais je ne sais pas si la réflexion de Khan est en relation avec ce que je dis ou autre chose. Donc, s'il veut bien étayer, peut-être que ça va rajouter quelque chose. Mais bon, bref, donc la constitution du Erev Rav, telle que vous le dites, qui est en fait. D'une certaine façon, comme ce Amalek qui est en nous et qui se répand et qui pousse, on peut dire, à s'éloigner ou à résister ou à s'assimiler, on peut le dire sur différents termes. Peut-être y compris autour de la table du Seder et qui pourrait entendre ça de façon mythique. Et ça peut être se relier, bien que y a des gens qui peuvent être sceptiques sans pour autant qui sont très éloignés, qui n'ont pas peut-être pas autant de Amalek qu'on dit. Mais ce que vous dites sur le Rav, c'est assez comment dire. Je me dis, mais du coup, la génération adéquate. Avec le Mashiya adéquat, elle n'est pas prête d'arriver, quoi. Je vois pas comment limiter ou réparer ou aider à réparer. Je sais pas comment intervenir, comment le travail que nous on doit faire déjà nous-mêmes, parce que je pense qu'il y a des traces. Même chez ceux qui pensent qu'ils ne sont pas partis de ce rêve rave, il y a des traces qui sont là, à mon avis, qu'on doit. Mais comment on peut agir sur ceux dont on pense qu'il y a, qui font, qui sont les descendants. Enfin, je le formule comme ça, mais c'est maladroit. Je pense que vous comprenez.
J'ai pas vraiment compris ce que vous vouliez dire.
Vous avez dit, vous avez parlé du Erevrav comme n'étant pas, vous avez fait la distinction entre le Erevrav qui n'est pas venu de l'extérieur, selon votre interprétation, mais qui pourrait être venu de l'intérieur, étant principalement des Hébreux assimilés, autrement dit, qui portaient en eux-mêmes.
Je l'ai dit, ça c'est une idée que j'ai
Oui,
parce
oui,
que je ne
oui.
sais pas quoi faire de ce midrash.
Ben, en fait, sinon, moi, je ne comprends pas l'idée qu'il y a un galout extérieur et un galout intérieur. Oui, un galout intérieur, des forces extérieures et des forces, un exil avec venu de l'extérieur et avec des ennemis extérieurs et des ennemis intérieurs. C'est-à-dire, sinon, je ne comprends pas pourquoi ça vient de l'intérieur. Qu'est-ce qui viendrait de l'intérieur, alors, si ce n'est pas ce que vous avez dit? Moi, je l'ai compris comme ça, c'est-à-dire pour moi, ce qui est extérieur, c'est tout c'est le contexte dans lequel étaient les Hébreux avec l'extérieur, c'est-à-dire les Égyptiens. Et puisque c'est un exil fondateur et qu'il y a deux exils qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur, si c'est vraiment de l'intérieur, c'est à l'intérieur même des Hébreux. Ou alors presque même, j'allais dire peut-être intérieur, alors à ce moment-là, c'est presque intrinsèque à l'homme, un type de créature. Et là, on retombe sur le Yetzer Hara, etc.
Le problème de l'homme qui a été créé avec un Yetzer Hara
Voilà, c'est ça. Oui.
intérieur aussi, donc.
Voilà. Alors, on retombe là-dessus. On pense. Alors,
C'est-à-dire, ce qu'on a dit, ce qu'éventuellement ce Yetzer Hara intérieur, il était surtout une capacité, au départ, il n'était qu'une capacité intérieure à accepter, à intégrer éventuellement, à être capable d'intégrer ou de.
Alors donc, ce que vous dites, c'est parce qu'il
Propose sera extérieur, mais
semblerait que vous ayez fait une
possibilité,
distinction.
mais pas du tout que il n'était pas encore actif, si vous voulez. Mais après, quand Hachem dit au départ, c'est pas du tout comme ça. Après, ça c'était au tout début, chez Adam et Chava. Mais après, Hachem dit clairement, l'homme il est au départ uniquement mauvais, il a que du Yetzer Hara. Et donc intérieur, évidemment. Yetzer lève à Adam, ra minéorav.
Donc l'ennemi intérieur dont vous parliez, ces deux types d'ennemis extérieurs et intérieurs, vous en parlez comme il me semblait que vous aviez fait la distinction, ou alors c'est les deux, la distinction entre un Erev Rav d'une partie des Hébreux qui aurait été totalement assimilée, qui rejetait, qui ne voulait pas sortir, et ou alors un ennemi intérieur qui serait le Yetzer Hara. Ou alors, peut-être que cette assimilation des Hébreux.
Quoi qu'il en soit, ce que je disais, c'est que l'existence de cet ennemi, de ce Erevrav, parallèlement à l'existence des Bnei Israël qui sortent d'Égypte, a eu ça a eu une influence, et il y a des gens qui ont été contaminés, si vous voulez, par la façon de voir, la façon de penser, la façon d'agir du Erevrav. Quel que soit ce Erevrav, que ce soit des
Oui.
Égyptiens ou que ce soit des Bnei Israël qui voulaient devenir Égyptiens, quoi, qui étaient tellement influencés qu'ils ne se voyaient pas autrement que Égyptiens. Mais ce dont on a parlé, c'est non pas d'eux, ce dont j'ai parlé, c'est des gens qui sont dans le clan Israël et qui ont été influencés par la proximité du Erev Rav.
Et ce que vous voulez dire, c'est que quelle que soit la constitution du Erev Rav, qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur, cette structure-là de galoute se retrouve dans toutes les autres galoutes, c'est-à-dire la part des juifs, ou bon, des Hébreux dans un premier temps, ou des juifs qui seraient, j'allais dire, bon, assimilés et qui produiraient quelque chose contre les juifs eux-mêmes, cette constitution-là, elle existe et elle perdure et elle augmente.
Regardez dans l'exil grec au moment de Hanouka, vous avez
Exact.
bien la quasi-totalité de la population qui est acquise complètement aux idées grecques. C'est des juifs, ces gens-là. Ils ont été par contagion de tout le milieu était tellement hellénisé, tellement grec, que bon, c'est devenu la mode, il fallait être grec. Enfin, ils sont devenus grecs. Et c'est les gens de l'intérieur qui ont été complètement contaminés par le milieu extérieur grec au point de devenir eux-mêmes grecs et de devenir des ennemis du peuple juif, en fait.
Oui,
Mais
mais moi du coup, je me dis, quel est l'enseignement pour nous que Hachem ait fait sortir son peuple avec une partie du peuple qui ne voulait pas sortir? Alors, si quel est
qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la partie du peuple qui ne voulait pas sortir, elle n'est pas sortie d'après l'explication standard. Ils sont morts pendant Rocher. Ils ne sont pas sortis, ceux-là. Point barre.
Est-ce que
Ce
je
que
peux
j'ai dit,
ajouter
c'est
quelque chose?
simplement c'est une élucubration parce que, bon, j'aurais peut-être pas dû vous le raconter.
Si, si, bah si. Bah si, au contraire, moi je trouve que c'est au contraire. Est-ce que je peux dire quelque chose?
J'ai lu dans les rouleaux.
Est-ce que je peux dire quelque chose, Rav? C'est Monsieur Lupescu. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, j'entends.
Moi, ce qui me gêne dans cela, c'est le mot mythe fondateur. Parce qu'il existait quand même quelque chose avant. Or, le mythe me renvoie à toute l'idolâtrie de la Grèce et des Romains. Je pense que le récit est d'abord supporté par un système de pensée. Et sortir d'un système de pensée où il n'y a plus d'idolâtrie, c'est le risque d'aller vers Amalek. Si on reste dans le système de pensée supporté par le récit, il n'y a aucun risque de retourner vers Amalek. Et ça, c'est, je dirais, dans le système de la pensée humaine, c'est sa faiblesse. Et qu'est-ce que ça veut dire rester dans le système de pensée? Vous pourriez dire d'autres mots là-dessus? Ça veut dire quoi rester dans le système de pensée? Le système, là, le récit est un système de pensée qui permet d'évoluer sa propre pensée et ne pas rester dans un système d'idolâtrie.
Va devenir
Amalek.
De devenir Amalek.
Oui, mais.
Parce que quel que soit le récit, dans n'importe quelle religion, si vous n'êtes pas dans un système de pensée, vous sortez du système. Vous pouvez répéter votre récit 20 fois, 100 fois. Si vous n'avez pas le système de pensée qui le supporte, vous retombez dans Amalek. Et je dirais que ça se passe encore de nos jours.
Et le système de pensée qu'il supporte, c'est quoi? Enfin, je suis direct, mais...
C'est la pensée juive.
Ok. un système de pensée qui admet que d'abord c'est Hachem qui gouverne le monde et que Hachem attend quelque chose de nous, nous a mis en position de devoir faire certaines choses et de pouvoir les faire. Y a des choses qui font que on peut sortir simplement de n'être intéressé que par soi. Il y a une façon de s'occuper des autres, de fabriquer justement une société agréable, une société dans laquelle on s'entraide, on se respecte, et une société qui essaye de travailler ensemble, d'imaginer ensemble l'avenir, de fabriquer un avenir intéressant. Et Hachem nous a donné, après Hachem nous a donné des mitzvot pour y arriver, quoi. Vous voyez, quelqu'un comme Yaakov, il a osé rêver la fameuse échelle et tout. Mais d'un autre côté, il n'a pas osé monter à cette échelle. Hachem lui a dit monte, il n'a pas voulu, il n'a pas osé. Il n'est pas allé jusqu'au bout, en fait. Donc, c'est ses descendants qui doivent aller jusqu'au bout. Qui est important, c'est que on ne sait pas, ce n'est pas un point fixe, le bout en question. Hachem,
Le
lui, il
quoi?
sait, mais nous, on ne sait pas.
Le quoi? Vous avez dit quoi? C'est pas un point fixe, le quoi? Le goût, le...
On doit arriver à quelque chose, mais on ne sait pas. On ne nous a pas dit. Il faut arriver à tel et tel point. On ne sait pas. On ne sait pas, par exemple, est-ce qu'il faut que tous les Juifs deviennent parfaits, respectent la Torah, ou est-ce qu'une partie suffira? Et si une partie suffira, quelle partie va suffire? Est-ce qu'il faut un rov, la majorité? Est-ce qu'il faut 10%? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut 22 000 juifs, comme on dit, le minimum du clan Israël, c'est 22 000 personnes. Est-ce qu'il faut 22 000 personnes qui soient parfaites? On ne sait pas.
En tout cas, si on va dans votre sens, Rabbi, étant donné que le Erev Rav serait, selon le Rabbi Akiva, 4 fois supérieur en nombre que les Bnei Israël, c'est un vrai miracle que nous existions encore, parce que puisqu'il fait partie il constitue aujourd'hui, hein, le peuple juif. C'est un autre mystère, ça.
Oui, c'est intéressant de voir que dans le peuple juif, il y a une grande partie de gens qui ne veulent pas du tout participer au projet juif, en fait, tel qu'il est décrit dans la Torah, quoi. Tel que, en tout cas, nos maîtres nous l'ont enseigné.
Comment Moshe, le Navi qui jamais on aura un Navi comme Moshe, la Torah le dit clairement, le formule clairement, a pu prendre un tel risque d'intégrer ce Erev Rav? Ça c'est pas croyable.
Rabbeinu, il pensait que Ces gens-là, on pourrait leur faire entendre raison, quoi. Devant la grandeur de ce qu'Hachem a manifesté, ils pensaient que ces gens-là allaient être suffisamment influencés pour bouger. C'est trompé.
Okay.
Voilà, on s'arrêtait là.
Merci.
Merci, Rob.